Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu, il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, on va commencer par se demander qui est Radio Canu.
Ensuite, on va parler de la police qui appelle à la délation via Twitter.
Des propositions de Taubira.
Ensuite, on va avoir des déclarations de Valls. Ceci, attention, n'est pas un Patriot Act.
Alors la Turquie enfonce la France sur les droits de l'homme, vous allez voir ça, c'est incroyable.
Ensuite, un petit « et pendant ce temps-là ».
Et puis on aura la chronique de Laurent Delabouze.
Et ce soir, pour en première, nous accueillons le fil d'Ariane qui commencera à 19h30. Et c'est une émission concernant les...
Alors, moi, il me semble qu'on peut décrire ça comme une émission de conseil juridique à propos du droit des étrangers. Non, pas du tout.
Eh ben, vous nous présenterez tout à l'heure ce que c'est.
Commencer par ça, je me rends pas du tout compte du nombre de personnes qui vont visiter le site de Radio Canu. Mais en tout cas, les gens qui y sont allés en gros dans la dernière semaine et jusqu'à peut-être ce matin, peut-être hier soir, ont pu y trouver un texte à propos des récents attentats. Et alors là, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte ? On apprend que Radio Canu est solidaire de Charlie Hebdo. Alors quand je dis « on apprend », je veux dire « nous, on apprend ». Nous, les animateurs, on a appris ça en passant par hasard sur le site de la radio. Et du coup, nous, on aurait pu se dire un peu peut-être naïvement qu'au moment où toute la France hurlait un peu d'une seule voix, qu'à ce moment-là, Radio Canu, enfin nous, on aurait vraiment pu croire, hein, que Radio Canu était une sorte de média de contre-information et que Radio Canu allait faire autre chose que de joindre sa voix à celle du président de la République, du Premier ministre, de tous les médias, de tous les hommes politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, à quelques rares exceptions près. On aurait pu croire que Canu, par exemple, aurait pu être aux côtés des musulmans, ou en tout cas de tous les arabes, puisque de façon musulmans, on sait bien que c'est n'importe qui qui a une gueule d'arabe en France, qui du coup s'en prennent plein la gueule depuis le 7 janvier. On aurait pu croire que l'urgence pour Canu, ça aurait été de se désolidariser de l'union sacrée qui est en train de nous tomber dessus. On aurait pu aussi croire qu'un truc qui aurait été malin à faire, c'était de relativiser toute cette merde, de rappeler que 12 morts ou 17 morts ou 20 morts, c'est quand même pas grand chose par rapport aux centaines de personnes qui, par exemple, se noient en Méditerranée chaque année parce qu'elles essayent de rentrer dans la forteresse Europe. Et du coup, ça c'est juste le bilan des ministres de l'Intérieur européens, c'est pas des terroristes, hein, c'est des ministres de l'Intérieur. Que c'est rien par rapport à la centaine de détenus plus ou moins qui se suicident en prison chaque année, que c'est rien par rapport aux gens qui se prennent les bombes de fabrication française sur la gueule ici et là dans le monde. Bref, en tout cas à un moment faire un peu relativiser un peu ce qui se passait. Ben non, il semble que Radio Canu, alors que Radio Canu est surtout solidaire de Charlie Hebdo. Après, c'est toute la question de savoir qui est Radio Canu, c'est-à-dire que nous qui sommes animateurs de Radio Canu, on n'a jamais entendu parler de ce texte avant qu'il soit publié. Il y a quelques-uns d'entre nous qui ont envoyé un mail au bureau de Radio Canu. Alors il faut comprendre que Radio Canu est une radio qui est censée être autogérée. C'est-à-dire que chaque année, il y a un bureau qui est élu, qu'il y a des grosses réunions, il y en a trois autres dans l'année où la totalité des émissions est censée envoyer un représentant, et que les décisions importantes se prennent uniquement dans ces réunions-là, que le bureau est là pour gérer un peu le quotidien, et pas pour prendre des décisions qui engagent la radio, par exemple l'image de la radio. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que visiblement des gens du bureau, mais en fait on n'en sait rien de rien, ont pris cette décision de publier ce texte, qui est un texte qui n'est pas du tout consensuel au sein de la radio. En tout cas, moi j'ai parlé avec des gens de plusieurs émissions, et quand même il y en a un paquet qui sont plutôt saoulés par ça. Alors voilà, on ne sait pas exactement qui est Radio Canut, qui est cette Radio Canut qui est solidaire de Charlie Hebdo. Bon, il semble en tout cas aujourd'hui le texte a été redéplacé, alors peut-être que voilà, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire.
Alors, c'est une info dont je vais parler qui date un peu, mais qui vaut quand même le coup d'être signalée. Alors, la police avait mis en place un dispositif de signalement de contenu illicite sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je précise, ce dispositif a été mis en place avant les attentats de Paris. Mais comme juste après l'attentat, les flics ont refait de gros communiqués, notamment sur Twitter, pour inciter à dénoncer des contenus jugés illicites via un hashtag. Alors le hashtag, on le rappelle, c'est l'espèce de dièse qui succède un mot ou une phrase sur Twitter, et qui permet de recenser tous les contenus Twitter en lien avec ce mot-clé. Voilà, donc le nombre de délations a été multiplié par 8. Alors, en jetant un coup d'œil via Twitter sur ces signalements qui ont été faits sur le net, on peut voir qu'il ne s'agit pas forcément, enfin en tout cas dans son immense majorité, en tout cas j'en ai vu aucun. Pour l'instant, il ne s'agit pas de signaler de dangereux terroristes qui se disent prêts à monter un coup, ni de démanteler un réseau de Twitter pédopornographique. Bien sûr, évidemment que non, car ces gens n'utilisent pas Twitter pour balancer des infos avant qu'ils fassent des trucs. Non, le but est bien théoriquement de chercher à surveiller tel ou tel compte, donc telle ou telle personne, en se basant sur ce qu'ils pourraient dire ou penser sur Internet. En gros, puisqu'en ce moment il s'agit de ça, on peut balancer aux flics un type qui aurait tweeté « je suis Kouachi » ou etc. etc. Bon bref, on a entendu parler de partout. Certes, rien de bien malin, mais rien d'illégal non plus. Enfin, si, maintenant, avec le délit d'apologie du terrorisme, ce truc qui a quand même foutu des gens en tôle. Après les attentats, il y a une personne qui a pris un enferme pour un tweet débile. Et ça, ça craint. On continue un peu sur ces suites policières de l'attentat. Et là, c'est Taubira qui est ministre de la Justice, on le rappelle, qui a fait 3 propositions de loi ou de modifications de loi. Alors, proposition qui date du 16 janvier, soit à peine 10 jours après l'attaque de Charlie Hebdo. Alors bon, pour un gouvernement qui a promis de ne pas légiférer dans la précipitation... Voilà. Alors, dans ces 3 mesures, il y a le fait de généraliser à tout le code pénal la circonstance aggravante de racisme et de sortir les injures et diffamations du droit de la presse et de les faire rentrer dans le droit commun. Bon, pour ces 2 mesures, c'est un peu technique en droit pour qu'on puisse, enfin, en tout cas, pour que je puisse capter ce que ça va changer dans les faits, mais ça, peut-être, à un moment donné, on en reparlera avec l'émission d'après. Par contre, les 3 mesures. Enfin, la 3e mesure, pardon, est un peu plus claire puisqu'il s'agit de confier à l'autorité administrative la possibilité de bloquer les sites et messages de haine raciste ou antisémite. En gros, là, ce qu'elle demande, c'est que le blocage d'un site internet ne soit plus fait sous l'autorité d'un juge, mais par un organe administratif. Alors, un exemple, j'espère que je dis pas de conneries, par exemple, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est une autorité administrative concernant la télé et la radio. Alors tout ça pour dire que l'autorité administrative est encore moins indépendante, c'est bien ça, hein, je me trompe pas. Oui, c'est bon, j'ai des avocates qui sont dans le studio. Alors tout ça pour dire que l'autorité administrative est encore moins indépendante que la justice, même si dans les textes elle se dit indépendante du pouvoir, mais bon, dans les faits, on voit bien que ce n'est pas le cas, notamment avec le CSA. Bon, Hollande avait remis ça en place, mais Sarkozy avait fait en sorte que ce soit lui ou le Premier ministre qui puisse nommer le président du CSA. Donc indépendance, là, on n'y croit pas trop. Donc ce qui craint en gros là-dedans, c'est qu'une autorité en fort lien avec le pouvoir va avoir le droit de fermer un site pour telle ou telle raison. Aujourd'hui, forcément, on nous brandit le grand drapeau antiterroriste pour faire passer la pilule. Mais comme on en a déjà parlé la semaine dernière et qu'on en parle souvent, à chaque fois que des lois censées être restreintes aux grands méchants comme les terroristes ou les pédophiles, elles se retrouvent bien souvent élargies à tout le monde, comme l'ADN par exemple. Et ça, c'est quand même sans parler de ce qu'un État considère comme terroriste. Par exemple, le TA et le PKK sont en France des organisations considérées comme terroristes. Donc, tout soutien ou propos flatteur à leur encontre peut tomber sous le coup de la loi. Autant vous dire qu'ici, on est dans la merde. Alors, Valls a tenu une conférence de presse pour présenter ses annonces pour lutter contre le terrorisme. On en parle beaucoup dans ce qu'est Nuit Info. Alors, il se tenait debout derrière son pupitre avec ses petites notes comme d'hab, mais derrière lui, un grand panneau où était écrit, je cite, « Mobilisation générale contre le terrorisme ». Bon, à peu de choses près, on aurait pu dire un titre d'un canard pour parler du mouvement des retraites, mobilisation générale contre la réforme des retraites. Sauf que là, non, c'est forcément en référence aux manifs de dimanche. Et c'est sur cet élan d'unité nationale que Valls a annoncé toutes ces mesures. Alors je vais les annoncer vite fait. Il y a 2680 emplois supplémentaires consacrés à la lutte contre le terrorisme dans la police, dont 1100 pour le renseignement intérieur. Actuellement, par exemple, pour avoir des idées de chiffres, la DGSI compte 3600 employés. Ça fait une belle augmentation de 33% d'effectifs tout de même. 425 millions d'euros pour l'investissement, l'équipement et le fonctionnement de la police. Et si on compte les frais de personnel, ça atteint 735 millions d'euros. Alors, ces frais seront compensés par des économies sur l'ensemble du champ de la dépense publique année par année. Alors ça, par contre, ça nous concerne, hein, les amis. La juridiction antiterroriste parisienne est renforcée de 27 personnes, plus 16 nouveaux magistrats antiterroristes. Et bien sûr, il y a la création d'un nouveau fichier pour les personnes prévenues ou condamnées pour des faits de terrorisme, avec obligation pour ces personnes de déclarer à intervalles réguliers leur adresse et leur déplacement à l'étranger. Il y a également la création de 5 quartiers spécifiques au sein des prisons pour les personnes dites radicalisées, 60 millions d'euros alloués à la prévention de la radicalisation, bon ça fait pas grand chose face aux 735 millions d'euros pour la répression, avec notamment la création d'un site internet pour informer le public sur les moyens de lutter contre l'embrigadement djihadiste. Bon ça vraiment, on voit vraiment pas à quoi ça peut servir. Ensuite, il y aura un renforcement de la surveillance des communications d'Internet. Et concernant Internet, qui était au cœur du problème avec les prisons dans le discours de Valls, il y a eu une interview dans Rue 89 avec Adrienne Charmet de la Quadrature du Net. Alors, on le rappelle, la Quadrature du Net, c'est un peu une association d'associations qui défendent la neutralité du web et les libertés Internet, en gros. Alors voilà, en gros elle décortique assez bien le discours donc juste sur la partie internet, et Valls il a déclaré qu'il voulait créer des cyberpatrouilles. Alors pour Adrienne Charmet, ça pose la question de qu'est-ce qu'elles auront le droit de faire. Est-ce qu'elles auront le droit d'inciter des personnes à dire des choses pour les coincer? Est-ce qu'elles auront le droit de participer à des forums privés sous pseudo? Voilà, en gros il faut être vigilant sur ce genre d'action. Et il en appelle également, donc Valls, hein, aux fournisseurs de services internet et aux réseaux sociaux à être beaucoup plus coopérants et à censurer les contenus illicites. Alors pour Adrienne Charmet, là encore ça pose problème, puisque pour elle il s'agit de reléguer à des entreprises privées, donc en gros Facebook, Twitter, Google, enfin tout ça quoi, l'exercice de la censure. Elle dénonce également cette dérive de plus en plus récurrente qui permet au pouvoir de contourner le législatif pour éviter tout débat public sur ces questions. Alors bon, plus de surveillance, plus de fichiers, plus d'écoute, plus de lois pour encadrer Internet et des quartiers isolés dans les prisons pour les radicaliser, mais chut, ceci n'est pas un Patriot Act.
On va en Turquie maintenant. On se souvient qu'en juin 2013, il y a eu un gros mouvement de contestation qui était parti d'une histoire d'un parc au centre d'Istanbul dont les arbres devaient être coupées, et puis en fait ça avait embrasé le pays entier. Ce mouvement de contestation avait fait 8 morts, dont un certain Ali Ismail Korkmaz qui était mort sous les coups de 4 policiers en civil et de 4 commerçants qui lui avaient tapé dessus à coups de batte de baseball en marge d'une manifestation dans la ville d'Eskişehir. Et donc ça, c'était le 2 juin 2013. Et ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que deux des flics qui l'avaient tapé ont été condamnés aujourd'hui à des peines de 10 ans de prison. Et là, on parle de prison ferme. Alors, trois commerçants qui avaient participé au passage à tabac d'Ali Ismail Korkmaz ont écopé de 6 ans et 8 mois de réclusion, et un quatrième à 3 ans et 4 mois. Les deux autres policiers qui étaient accusés dans cette affaire ont été acquittés. Ce verdict, tenez-vous bien, hein, c'est dire si les gens sont pas contents de ce qu'ils ont, a provoqué la colère des proches de la victime. L'État assassin va rendre des comptes, ont-ils scandé dans la salle d'audience. Eh ben oui, mais ces Turcs, ce qu'ils comprennent pas, c'est que la Turquie est un sacré pays de défense des droits de l'homme et des libertés publiques. Parce que si on compare avec la France, en France, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors bon, j'ai passé un peu de temps sur Internet pour essayer de trouver, mais en tout cas, des condamnations de flics qui ont tué des gens en France, il faut remonter aux années 90 pour en trouver. Bon, pour prendre des exemples un peu récents de gens qui sont morts, hein, Ali Ziri, un retraité, qui rentrait chez lui un petit peu éméché, qui est tombé sur une patrouille de flics. Il est monté dans le car des flics, il en est ressorti dans le coma, et il est mort quelques heures après, non-lieu pour les flics. Hakim Hajimi, qui s'était engueulé avec son banquier, et le banquier a appelé la police. Sur le chemin du retour, il y a des flics qui lui ont sauté dessus, et qui l'ont immobilisé. La manière dont ils l'ont immobilisé qu'il est mort. Là, il y a trois flics qui ont été condamnés quand même, 24 mois, 18 mois, 6 mois, le tout avec sursis, c'est-à-dire qu'ils risquent pas du tout d'aller en prison. Je sais pas, est-ce qu'on va reparler de Nelson, qui avait 14 ans, qui traversait un passage piéton à Marseille, et puis qui a été renversé par un flic qui conduisait largement au-delà de la vitesse autorisée à cet endroit-là, sans spécialement que le flic soit, enfin, qu'il ait une raison de conduire vite, hein. Ah bah, ce flic, lui, il a pris un an avec sursis, et quand même, retrait du permis de conduire et interdiction de le repasser pendant un an, ça nous fait une belle jambe. Maintenant, des gens qui meurent en manifestation, puisque là c'est le cas avec la Turquie. Et ben, en fait, en France, il n'y en a quand même pas tant, il faut dire ce qui est. Le dernier, c'était Rémi Fraisse, mais là c'est encore trop récent pour qu'on sache comment ça va se terminer. Par contre, Malik Oussekine, en 86, il y a eu deux flics qui ont été condamnés, 2 ans et 5 ans, mais encore une fois avec sursis. C'est-à-dire que là, on parle vraiment que de flics qui passeront pas une seconde en prison. Et pour trouver des flics qui ont réellement été condamnés à de la prison ferme, Macomé, en 93, il a été tué d'une balle dans l'œil au commissariat. Il faut quand même dire que là, les flics, ils sont allés fort un peu, que pour dire qu'ils étaient en légitime défense ou qu'ils ont pas fait exprès, c'est compliqué. Donc là, il y a un flic qui a pris 8 ans de tôle. Un Fabrice Fernandez qui a été tué d'une balle dans la tête pendant son interrogatoire, donc encore une fois au commissariat, c'était en 97, lui il a pris 12 ans de prison. Mais à part ces deux-là, j'ai vraiment pas trouvé une seule trace d'un flic qui a été condamné à de la prison ferme en France. Pour avoir tué quelqu'un. Et donc la Turquie, par contre, elle va jusqu'à condamner deux flics à 10 ans de prison chacun.
Alors, il y a la chambre d'instruction qui a annulé la mise en examen du flic qui avait interpellé Wissan El Yamni et qui est donc Wissan El Yamni qui était mort à la suite de cette interpellation. Pardon. Une autopsie avait montré la trace de violence policière avec notamment des marques d'étranglement au niveau du cou ainsi que l'utilisation de la technique, donc une des techniques de flic. Du pliage, enfin dite du pliage, qui consiste à maintenir une personne la tête appuyée sur ses genoux, ce qui a pour effet de lui couper le souffle, vous imaginez bien. Et bien, comme souvent, la justice a préféré suivre une autre autopsie qui identifiait la cause du décès par la prise de stupéfiants de Wissam. Alors, pour rappel, Wissam avait été interpellé la nuit de la Saint-Sylvestre, il était tombé dans le coma au commissariat et est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Suite à cette mort, plusieurs nuits d'émeutes ont éclaté et sa famille continue la bataille judiciaire et ne lâche rien pour que toute la lumière soit faite sur cette histoire et que les responsables soient traduits en justice.
Bonsoir. Pardon. Tu voulais faire... Bon, alors j'avais un camarade qui voulait faire le jingle, mais finalement non. Alors oui, du coup, ce que je vais dire, ça va peut-être faire un peu redite, hein, parce qu'on aurait peut-être pu se parler avant, mais c'est pas grave. Ça peut faire redite ou alors enfoncer le clou, c'est peut-être mieux. La solidarité est une arme. Sortons nos boucliers. Mais non, ceci n'est pas un slogan de manif de droite. Pourtant, il aurait été pas mal. Hein. Non, c'est ce que m'inspire le texte qui figure sur la page d'accueil du site internet de Radio Canu. Lisez-le si vous avez le temps. Par contre, si comme moi vous avez déjà lu 40 000 textes de gauche molle sur Charlie Hebdo qui expriment leur solidarité avec le journal tout en disant bien que, quand même, ils ne sont pas d'accord avec le méchant gouvernement et la vilaine unité nationale, laissez tomber. Bon, sinon, laissez tomber aussi. Regardez TF1, ça aura le même effet sur votre cerveau, vous pourrez peut-être entendre parler d'autre chose. Je tiens pas ici à laver le linge sale de Radio Canu en public, ça intéresse personne. Et puis au vu de la fréquentation de Radio Canu, qui va du jeune squatteur qui a pas le temps d'aller à laverie à cause du boulot, ou pardon, des réunions, les punks à chiens, les vieux gauchistes qui considèrent que la propreté c'est pour les bourgeois en passant par les écolos qui attendent la pluie pour économiser l'eau, ça représenterait un sacré boulot. Je ne vais donc pas m'apesantir sur le titre, par exemple, Radio Canu, solidaire de Charlie Hebdo. Alors qu'étant moi-même de Radio Canu, personne ne m'a demandé mon avis. Je ne vais pas dire non plus qu'être solidaire avec un journal sexiste et islamophobe me paraît extrêmement douteux. Oh non, surtout pas. Dire ça, ça pourrait faire le jeu des terroristes. Je vais plutôt reprendre quelques éléments fournis par Judith Butler et d'autres sur ce que signifie en ce moment affirmer sa solidarité avec Charlie Hebdo. D'abord, la dimension émotionnelle. On peut dire que ce texte, comme d'autres, est une réaction émotionnelle de certains animateurs de Canu, même quasiment intime. Cependant, le caractère public et collectif de ces réactions nous rappelle que les émotions sont tout sauf des réactions spontanées. Même si cela nous semble proche, personnel, elles sont construites par des cadres interprétatifs qui les génèrent, les régulent et leur donnent un sens. Derrière ces cadres se cachent des perspectives et des partis pris moraux et politiques. Ce sont des émotions socialement construites. Ici, on pourrait même dire partie socialistement construite. Et puis, lorsqu'on affiche notre compassion, comme sur le site de Radio Canu, pour les morts de Charlie Hebdo, on fait briller par son absence la compassion que l'on pourrait avoir pour les autres victimes de ces terroristes. Le même jour que la tuerie de Charlie, attentat au Yémen, 34 morts. Bon, vous allez me dire, c'est bon, hein, ces bouffeurs de dromadaires enturbanés, ils n'avaient pas dessiné au Club Dorothée. C'est vrai, en plus il paraît que pour dessiner des femmes à poil, ils sont nuls. Ça pêche au niveau du modèle, trop de voiles. On se rend donc compte que ce discours humaniste, qui accorde a priori une valeur égale à toutes les vies, organise en réalité la hiérarchisation des souffrances et l'indifférence de fait par rapport à certaines morts. A-t-on affiché aussi ostensiblement notre solidarité avec les victimes civiles des bombardements à Gaza, ou avec les 19 144 morts victimes de l'Europe forteresse depuis 1988, sans parler des Kurdes de Schengal ou de Kobané? Il y a aussi derrière le paravent de neutralité positive de ces déclarations de soutien, l'enseignement de quelle vie il convient de pleurer, mais aussi et surtout, quelles vies demeureront exclues de cette économie moderne et humaniste de la compassion. Voyons maintenant quels pourraient être les effets de ces actes de solidarité. Aider les familles des victimes à faire leur deuil? Bon, peut-être, mais j'y crois pas trop. Pas trop, faudrait leur demander. Rendre plus forte la liberté d'expression? Bon, sur ce plan-là, je pourrais vous montrer les résultats concrets immédiats, en blaguant par exemple sur le fait que Daesh, malgré son nom, n'est pas une marque de lessive. Et pourtant, il effectue un sacré nettoyage. Mais j'ai pas envie d'encombrer les tribunaux. Par contre, les postures positives de compassion, d'idées de grandeur, de liberté d'expression, ont historiquement favorisé les sentiments pro-guerre. Pour 14-18, il s'agissait pour les Français de défendre leur belle civilisation et pour les Allemands leur grande Kultur. Plus récemment, on a vu les sentiments belliqueux des Américains qui voulaient amener la démocratie. Et bientôt, à qui les Français voudront faire la guerre pour amener leur bon pinard et leur beau dessin de femme à poil? Ou, pardon, pour installer la laïcité? Contrairement au discours raciste qui met bruyamment en scène la violence déployée dans le discours, le prêche compassionnel et humaniste la rend aveugle sur sa propre violence. Même si jamais les guerres basées sur ces plaidoyers étaient légitimes, on n'a même pas une idée approximative du nombre de morts générés par la guerre américaine en Afghanistan en 2001 ou par l'intervention française au Mali. En conclusion, peut-être serait-il plus utile de s'interroger sur tous ces morts que nous n'allons pas pleurer. Enfin voilà, désolé de vous avoir saoulé avec ça, mais c'est parce que moi qui ai toujours eu le sentiment profond de ne pas être Charlie, j'aurais voulu être Canu, mais là, ça va être dur. Et pendant ce temps-là, je sais pas si vous avez vu, mais l'ancien pourfendeur de la finance, le chevalier au scooter qui nous tient lieu de président et qui part maintenant en croisade contre les moulins à vent du terrorisme islamique, eh bien notre socialiste inversé voit sa cote de popularité augmenter de 20%. Remontée historique jamais égalée. En même temps, quand on parle aussi bas. Alors, suite à ça, tous les analystes politiques s'en sont donnés à cœur joie pour nous expliquer ce phénomène. Quelques exemples. Après les attentats, la population a besoin de faire confiance à son président.
Ou encore, il a réussi à forger une belle unité nationale et même internationale, puisqu'il a fait front commun avec des jolis criminels de guerre comme Netanyahou, des dictateurs africains ou du Moyen-Orient. D'autres ont estimé que ce regain de popularité était dû au costume bleu roi qu'il portait à la manifestation, que même la fiente de pigeon ne tache pas. Laissons toutes ces théories fantaisistes de côté. J'ai moi-même trouvé, après une enquête minutieuse et une fine analyse de la situation, j'ai trouvé la seule explication plausible à la hausse de 20% de la cote de popularité de François Hollande. La voici. Il se trouve qu'au moment même où on mesurait sa cote de popularité, on constatait, suite aux attentats, une augmentation de 20% de la consommation de somnifères et d'anxiolytiques en France. Il paraît d'ailleurs que lorsque les sondeurs appelaient les gens en leur demandant s'ils aimaient François Hollande, certains répondaient
« Oui, je l'aime, j'aime tout le monde, toi aussi je t'aime. »
À ce compte-là, même Philippe de Villiers aurait pu prendre 20 points. Maintenant, pour finir sur une petite note humoristique, j'ai sélectionné quelques petites phrases issues des déclarations des politiques en cette fin d'année et qui vont concourir pour le prix de l'humour en politique. Alors, d'abord, celle de François Fillon, avec laquelle on pourrait tous être d'accord, je pense. Avant de juger les propositions d'Emmanuel Macron, je vais attendre qu'elles soient abandonnées. Alors, il y a aussi celle de Jérôme Lavrieux. Vous vous rappelez qui c'était ? J'avais fait une chronique sur lui. Ben, vous avez qu'à réécouter. Vous aviez qu'à être attentif. Jérôme Lavrieux, mi-octobre, qui en reparlant de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2012, déclarait « C'est la campagne la plus honnête qui ait jamais eu lieu. » Et enfin, toujours à propos de Sarkozy, de la part de son meilleur ami qu'il connaît aussi bien que lui-même, Brice Hortefeux affirmait en novembre dernier « Sarkozy a une règle, ne pas s'en prendre aux autres. » Ouais, j'en fais une petite dernière. Patrick Menucci, à propos de Jean-Noël Guérini, là, l'élu PS de Marseille de la mafia, là. Il dit lui-même qu'il est ni de droite ni de gauche, il fait donc partie du milieu. Voilà.
Nous accueillons du coup notre seconde partie de Canu Info qui va se présenter bien mieux qu'on l'a fait tout à l'heure.
Bonsoir. Alors nous, on est un collectif d'avocates, de quatre avocates qui avons, au cours de notre expérience professionnelle, acquis un certain nombre de connaissances pratiques sur le monde du droit et sur la justice. Et l'été dernier, pour plein de raisons, ça nous est venu l'idée que ça pourrait être intéressant, chouette, de le partager avec d'autres, parce que le droit concerne tout le monde, la justice aussi, puisque dans le droit, on pense pas forcément. Enfin, il y a les questions de procédure, donc quand on passe devant un juge, mais il y a aussi le quotidien, le contrat de travail, par exemple, lorsqu'on a fait un achat aussi, il y a le droit qui s'applique, ça paraît à la fois, c'est à la fois très quotidien et à la fois ça paraît très compliqué et très complexe. Et on se disait que ça pouvait être intéressant de donner des clés pour comprendre ce qui, pour savoir où s'orienter et comment réagir face à certaines difficultés qui peuvent se présenter. Donc on a proposé cette émission, enfin en tout cas cette rubrique à Canu Info qui a fait le plaisir de nous accueillir. Cette émission s'appellera Le fil d'Ariane, c'est-à-dire l'idée étant de donner des informations pratiques sur le droit et sur la justice. L'idée c'est de partir de chaque mois, proposer à partir d'une situation concrète, très pratique, savoir comment aborder cette question-là, quelle est la procédure qui risque de s'appliquer s'il y a une difficulté judiciaire et qu'on doit passer devant un juge, mais aussi où trouver du conseil, où trouver des informations qui soient pas forcément, parce que l'idée c'est pas de prêcher pour notre chapelle, pas forcément les avocats, mais parfois aussi les avocats, parce que ça peut être aussi utile, mais du coup de donner à chaque fois pour certains thèmes ces informations-là. Sachant que on ne fera pas de consultation individuelle, on est vraiment sur quelque chose d'assez général, mais par contre qu'on aura à terme, parce que pour l'instant c'est pas le cas, un blog sur lequel on mettra nos émissions et une adresse mail sur laquelle éventuellement il pourrait y avoir des questions pour des précisions, notamment des informations pratiques. Voilà. Et donc, chaque émission a un thème assez précis, mais aujourd'hui, on avait envie de faire une émission un peu plus générale sur l'accès au droit, et donc d'aborder, la question de qu'est-ce qui se passe quand je suis face à une difficulté juridique, et plutôt, après, plus sur je suis convoqué devant un tribunal ou comment je peux faire appel à un juge. L'une d'entre nous veut dire quelque chose.
Oui, donc on avait aussi envie d'expliquer aux auditeurs qu'il y a plusieurs possibilités d'avoir un renseignement juridique lorsqu'on est confronté à un problème. On peut penser à l'avocat, mais ce n'est pas forcément la première étape. Par exemple, en France, il existe depuis les années 1990, le début des années 1990, des maisons de justice et du droit. Ce sont donc des organismes publics et qui offrent à tout citoyen la possibilité d'avoir accès à un avocat, d'avoir accès également à des juristes, à des conciliateurs ou à des délégués de défenseurs des droits. Plus précisément, des permanences sont organisées presque tous les jours. Je vous invite à regarder le site internet de la Maison de justice et du droit. Vous aurez les horaires. Mais donc tous les jours, il y a des consultations gratuites d'environ un quart d'heure au cours desquelles l'avocat essaye de comprendre le problème de la personne et essaye de l'aiguiller. L'avocat n'est pas là pour démarcher la personne. L'avocat est vraiment là pour pouvoir aiguiller, c'est-à-dire que voir s'il y a un problème tel qu'il faut effectivement avoir recours à un avocat, ou alors voir si le problème peut également se régler peut-être par la discussion, par des simples courriers, par un conciliateur. Le conciliateur est celui qui va accueillir des personnes qui ont un souci, mais dont le souci peut paraître pas suffisamment important ou pas suffisamment justifié pour que un procès soit intenté. Auquel cas, il y a une personne qui va essayer de concilier, par exemple, deux personnes qui ont des problèmes de voisinage, des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Il est aussi possible, dans ces maisons de justice et du droit, d'avoir accès aux délégués de défenseurs de droit, des droits, c'est-à-dire une personne qui est à l'écoute et qui va essayer de régler un problème lorsqu'une personne se sent lésée, lorsque ses droits, selon lui, ne sont pas protégés. Il y a également dans les maisons de justice et de droit des juristes qui sont diplômés et qui sont tout à fait à même de pouvoir répondre aux questions juridiques des personnes.
Pour compléter simplement sur l'accès au droit et les lieux où on peut avoir accès justement à des informations juridiques, donc il y a effectivement, comme disait Madeleine, ces maisons de justice et du droit. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui tiennent des permanences juridiques où on peut se renseigner. Ce sont souvent des permanences thématiques en fonction des associations. Il y a notamment des associations de victimes, beaucoup d'associations dans le domaine du droit des étrangers, dans le domaine de la famille, du contentieux familial, des associations spécialisées sur les questions de violence conjugale, des associations pardon, consommateurs. Donc il y a les associations, il y a les syndicats, il y a les avocats, donc effectivement en maison de justice où il y a des consultations gratuites, mais il faut savoir qu'il y en a également au palais de justice, et puis il y en a également dans certaines mairies. Donc voilà, c'est tout ça pour déjà indiquer qu'il existe de nombreux lieux où on peut trouver des informations juridiques quand on est confronté à un problème et qui peuvent permettre déjà de se renseigner, parce qu'effectivement souvent ce sont des situations compliquées, et de savoir un petit peu déjà où s'orienter, quoi faire, et s'il y a justement quelque chose à faire ou pas. Et avant de se retrouver éventuellement dans une procédure judiciaire.
Alors justement, s'agissant de comment on se retrouve dans une procédure judiciaire, comme on disait tout à l'heure, le droit effectivement est partout et on peut malheureusement ou heureusement au contraire parfois se retrouver devant un tribunal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, pour résumer, il y a deux types de positions. Soit en gros la justice vient à vous, soit c'est vous qui allez vers la justice parce que vous voulez faire valoir un droit ou contester quelque chose qui vous est arrivé. Donc très concrètement, parce que pour pas parler abstrait, mais très concrètement, on est amené à se présenter devant un tribunal ou une juridiction par plusieurs biais. Alors ça peut être soit une convocation délivrée par la police, je pense notamment au niveau pénal, ça peut être par lettre recommandée, le tribunal qui vous adresse un document et qui vous demande de vous présenter à telle date, telle heure, tel endroit pour une procédure. Ça peut également être un acte d'huissier, et là c'est effectivement important d'avoir connaissance de ce document pour bien être présent à l'audience du tribunal et puis surtout se défendre par rapport à ce qui est demandé. Voilà, donc c'est très concrètement les différentes façons par lesquelles on est amené à se présenter devant un tribunal. Et il y a l'autre aspect également, c'est la situation où c'est à vous d'aller devant la justice parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui arrive. Je pense notamment à certains courriers qui peuvent arriver, qui ont l'air anodins comme ça, mais qui en réalité pourraient être des décisions qui par la suite entraîneraient des conséquences importantes pour vous, notamment décisions de la préfecture, conseil général, différentes institutions, différents organismes publics. Également, commandement de quitter les lieux qui peut arriver et qui peut nécessiter une réaction rapide de la personne qui est concernée par ce document. Donc là, si on n'est pas d'accord avec ces éléments, pas d'accord avec ce qui est dans ces courriers et ces décisions, c'est à vous de faire les démarches pour saisir le tribunal. Et là encore, il est toujours préférable, quand on reçoit ce type de document, d'aller prendre conseil tout de suite, vraiment le plus vite possible. D'abord, premier conseil, parce qu'il peut y avoir des délais qui peuvent être extrêmement courts dans certains cas. Parfois non, mais en tout cas, dans le doute, il vaut mieux aller très vite prendre conseil, savoir déjà comprendre ce qui se passe exactement, si c'est grave ou pas forcément, et savoir également comment réagir, anticiper les difficultés. Avant de faire aussi, avant de saisir la juridiction, parce qu'on peut vous proposer de faire une lettre, un recours devant la juridiction, avant de faire ça, prendre les bons conseils aussi et savoir où on va et dans quelle forme il faut faire cette démarche-là. Et puis ensuite, si c'est nécessaire, préparer la suite de la procédure, l'audience, si elle doit se tenir.
Notamment dans le cadre de la préparation de l'audience et la préparation du dossier avec la personne qui va conseiller, il faut savoir que c'est important de préparer tout ça sérieusement. Ça veut dire, quand je dis ça, c'est que c'est important, quand on veut faire valoir ses droits, d'arriver avec un dossier bien constitué, avec des pièces justificatives. Et c'est bien d'avoir de l'aide pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de procédures qui peuvent être engagées seules. Je pense notamment aux procédures devant le juge d'affaires familiales, où on peut remplir seul sa requête auprès du tribunal, la déposer puis attendre l'audience. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé devant le juge, parfois ce qui peut être compliqué, c'est de pas être venu avec toutes ses pièces et du coup de pas pouvoir faire valoir concrètement ses droits parce qu'on n'a pas tout bien préparé. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, simplement parce que notamment dans les procédures où on est entre particuliers, il y a un principe qui est important dans le domaine de la procédure, c'est le principe du contradictoire, qui souvent n'est pas connu par les gens. Il faut le savoir parce qu'en gros, c'est de dire que quand vous voulez faire valoir des arguments et des pièces devant un juge, vous êtes obligé en fait de le communiquer, de montrer à celui qui est en face de vous, donc votre adversaire entre guillemets, et que c'est pas juste des documents qu'on va présenter au juge sans que la partie qui est en face de vous, qui soit en défense, soit en demande, puisse faire valoir aussi ses arguments par rapport à ces pièces-là. C'est important parce que c'est vrai que nous, comme avocates, ça nous arrive effectivement de se retrouver dans des procédures avec en face de nous quelqu'un qui est tout seul et qui nous dit je vais pas vous montrer vos pièces, je montrerai qu'au juge. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et c'est important de le savoir, parce que c'est important de savoir que c'est les pièces que vous allez faire valoir, il n'y a pas que le juge qui va les voir, il y a aussi un avocat éventuellement avec son client, et que tout ça, ça va faire l'objet d'une communication un peu officielle.
Parce qu'en fait, il y a aussi, enfin, c'est parce que du coup, on est déjà dans le constituer le dossier, le papier, tout ça. C'est que c'est beaucoup un monde de papier, de documents. C'est vrai que nous, on passe beaucoup de temps à essayer de récupérer des preuves. Et enfin, évidemment, l'idée, c'est qu'on fait confiance aux personnes qu'on rencontre et on les accompagne en leur faisant confiance, mais qu'on a besoin, que ce soit devant le juge, de pouvoir justifier de ce qui se dit. Et du coup, c'est vrai que très souvent, on a tendance à constituer des dossiers avec beaucoup de documents papier, mais parce qu'en fait, la justice en général, est quand même vraiment basé sur des documents papier et des preuves. Enfin, je pense en droit des étrangers, par exemple, où on aura beau affirmer qu'on est là depuis 10 ans, si on n'a pas les preuves de ça, et on a beau le croire et le comprendre, ça sera pas possible. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a un gros travail de préparation en amont, lorsqu'on est convoqué devant un juge, de rassembler justement ces documents-là, quel que soit le type de procédure, je pense d'ailleurs, parce que pour convaincre, il va falloir aussi pouvoir s'appuyer sur ces documents-là, et ce sera pas nécessairement sur la parole ou sur le pouvoir de conviction de l'avocat, parce que on a aussi souvent l'impression que c'est parce que l'avocat aura été très éloquent à l'audience, qu'il aura fait des beaux effets de manche et qu'il aura très très bien parlé qu'on va convaincre. Alors bien sûr qu'un avocat qui plaide bien, ça peut aider, mais concrètement c'est surtout le travail qui a été fait en amont, l'argumentation qui a été construite, les documents qui ont été apportés, qui fera que ça pourra basculer en la faveur de la personne qui est là. C'est voilà, on peut faire tous les effets de manche qu'on veut, si on n'a pas un dossier un peu solide et bien constitué, ça sert à rien, ça fera juste plaisir à ceux qui écoutent, quoi. C'est ce qui était pas mal, mais
et je rebondis un petit peu en droit français, il y a une dualité de juridiction, et donc on peut se retrouver soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire. Il faut savoir que devant le juge administratif, la procédure est écrite, c'est-à-dire que le juge ne se fonde uniquement sur les pièces et sur les écritures. Donc le jour de l'audience, nous, avocats, on fait des observations orales, mais qui doivent nécessairement être étayées par les pièces qui sont produites et bien antérieurement au jour de l'audience. Donc il arrive assez régulièrement que les personnes arrivent le jour de l'audience avec des pièces qui veulent communiquer au juge, mais c'est plus possible. Il y a des dates, il y a des délais, en fait, au dépôt de la requête, que nous, avocats, nous devons respecter. Et c'est parfois, pour les personnes, difficiles à comprendre, parce que réunir des documents, ça prend du temps, qu'ils ont parfois pas pu obtenir ces documents auparavant. Mais voilà, en tout cas, l'avocat ne peut pas, l'avocat et le requérant, même si le requérant est tout seul, ne peut pas produire des documents le jour de l'audience. Ce qui est différent dans d'autres procédures. Par exemple, devant le juge des affaires familiales, il est possible, tout en respectant le principe du contradictoire, c'est-à-dire tout en prévenant la partie d'en face des pièces qu'on a en notre possession. Mais voilà, donc toutes ces règles de procédure qui peuvent paraître un petit peu loin du quotidien, un petit peu loin du problème que la personne a et les raisons pour lesquelles elle est venue nous voir, en fait régissent la procédure.
J'ajoute là-dessus, c'est qu'en fait on a souvent en tête le procès pénal, c'est-à-dire c'est souvent ça qu'on a l'idée, c'est là que je suis convoquée parce que j'ai commis un acte qui est considéré comme un délit, et là pour le coup c'est une procédure orale, donc beaucoup de choses se passent à l'audience et la procédure est pas tout à fait la même, donc on a souvent cette idée-là en tête, et ce qui est pas le cas en fait dans beaucoup de procédures. Mais peut-être que pour reprendre aussi, pour revenir un peu à la base, c'est que quand on parle de requérant, donc c'est celui qui est en demande et qui donc veut faire valoir ses droits, quand on parle de prévenu, c'est celui qui au contraire est convoqué par la justice pénale, et du coup donc sur une procédure finalement classique, si je suis en demande, c'est moi qui vais faire en sorte de provoquer la machine judiciaire. Alors ça dépend, si par exemple je suis étranger et que je suis pas d'accord avec la décision qui a été prise à mon encontre, je vais saisir le tribunal administratif, donc je suis requérant. Et il va y avoir un échange donc de mémoire, donc d'écriture, et ensuite le tribunal administratif va trancher. Si au contraire je suis convoqué devant le tribunal correctionnel, à ce moment-là je suis en défense, et donc je vais pouvoir avoir accès au dossier qui a été constitué contre moi et tenter de faire ces arguments-là. Donc c'est vrai que suivant les procédures, on n'a pas la même position, on n'a pas la même façon de travailler, et c'est pourquoi ça nous paraît important de pouvoir se renseigner. Alors évidemment, les avocats, qui en plus parfois sont obligatoires, pas dans toutes les procédures mais c'est le cas, peuvent être un bon interlocuteur, mais il y a un certain nombre d'associations qui ont l'habitude aussi, ou de syndicats qui ont l'habitude de faire ce type de procédure, en tout cas seront orientés pour le début. Quand on a affaire à un juge, on peut éventuellement avoir droit, donc ça c'était aussi à l'aide juridictionnelle, qui est souvent le cas, puisqu'on peut aussi ne pas avoir les moyens de se payer un avocat, puisque effectivement ça représente un certain coût. Et pour, on a, enfin, Pour le coup, la juridictionnelle, par contre, elle ne peut être. Enfin, on ne peut y avoir droit que quand il y a un juge qui intervient dans la décision. C'est-à-dire quand on est ce qu'on appelle en contentieux. Autrement dit, quand toute la démarche en amont, toute la démarche de conseil, toute la démarche d'accompagnement, alors même qu'elle est très importante, puisque je pense que, par exemple, pour un étranger, l'accompagner dans la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour, c'est hyper important et ça peut justement éviter de se retrouver devant le juge ensuite. Mais ça, pour le coup, c'est pas pris en compte, en charge par la juridictionnelle. Donc, certaines associations peuvent faire ce travail-là. Mais par contre, devant un avocat, effectivement, ça aura un coût qui peut être assez certain.
Mais du coup, au niveau de la juridictionnelle, par exemple, que ce soit nous qui saisissons la justice ou qu'on soit saisi par la justice, elle marche quand même. On peut saisir l'aide juridictionnelle en saisissant la justice.
Oui, complètement. Après, c'est sous certains critères, des critères de ressources notamment. Je ne sais plus quel est le seuil.
942 euros depuis le 1er janvier 2015.
Donc en gros 940 euros au total, enfin pour avoir l'aide juridictionnelle totale.
Pour une personne seule aussi.
Ouais. Oui, parce que en fait pour une personne seule c'est 942 euros et après suivant la composition du foyer il y a des seuils qui montent aussi. Ça c'est pour l'aide juridictionnelle totale, sachant qu'il peut y avoir aussi l'aide juridictionnelle partielle qui fait qu'il y a une prise en charge partielle seulement des honoraires de l'avocat et de l'huissier, enfin de tous les personnels de justice aussi. Mais effectivement que je sois en demande ou en défense, je peux bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'idée c'est d'avoir un accès au juge de façon générale. Pour l'instant, c'est pour l'ensemble des procédures, sous quelques conditions. Après, on ne sait pas dans quel sens ça peut évoluer.
Alors, petite info pratique aussi, puisqu'on parle d'aide juridictionnelle, toujours très concrètement, pour trouver ces dossiers d'aide juridictionnelle, parce que pour l'obtenir, il faut le demander, c'est pas automatique. Il y a un formulaire à remplir, donc qui est disponible sur Internet. On vous renvoie notamment, parce que c'est le site officiel, servicepublic.fr, où il y a le formulaire SERFA, donc le formulaire à remplir. Il est également accessible, alors, à Lyon, au tribunal de grande instance. Il y a un bureau d'aide juridictionnelle qui est ouvert tous les après-midi, 13h30, 16h30, je crois de mémoire, au Red Jardin. Vous pouvez également obtenir ces dossiers d'aide juridictionnelle dans différents lieux, je pense aux associations qui conseillent et donc qui donnent les dossiers lorsque c'est nécessaire, maisons de justice et du droit également. Et par rapport au seuil, alors on va peut-être pas tous les donner, mais effectivement comme repère, pour avoir accès à l'aide juridictionnelle totale pour une personne seule, c'est 941 euros par mois, le plafond. Après, il y a des hypothèses de plein droit également. Je pense notamment au RSA et puis à certaines situations. On a un plein droit à l'aide juridictionnelle. Et après, il y a différents seuils, effectivement, selon le nombre de personnes à charge, les situations familiales et personnelles des requérants ou des défendeurs, effectivement, à la procédure.
Il faut savoir que quand on bénéficie de l'aide juridictionnelle, on peut choisir son avocat. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est à l'aide juridictionnelle que du coup on a forcément, comme on dit un peu dans le langage commun, un avocat commis d'office. Ça veut dire que quand on remplit son dossier, soit en fait on est déjà allé voir un avocat qui a accepté de travailler à l'aide juridictionnelle, parce que pour le coup tous les avocats acceptent pas forcément. Donc il faut pas hésiter quand on prend rendez-vous avec un avocat, quand on appelle un cabinet d'un avocat pour prendre rendez-vous, à demander. Si l'avocat en question prend l'aide juridictionnelle, ou en tout cas lui poser la question au rendez-vous. Si l'avocat accepte l'aide juridictionnelle, à ce moment-là, quand on remplit le dossier, en fait, il faut demander à l'avocat soit de faire un courrier pour expliquer qu'il accepte, ou soit l'avocat met un coup de tampon sur le dossier. Par contre, on peut aussi ne pas avoir choisi d'avocat ou ne pas en connaître. Et à ce moment-là, on indique dans le dossier d'aide juridictionnelle qu'on demande à ce qu'un avocat soit désigné pour assister la personne. En tout cas, à Lyon, je ne sais pas trop dans les autres villes, mais à Lyon, les avocats sont inscrits sur des listes par spécialité. Donc, en principe, l'avocat qui sera désigné pour vous assister sera spécialisé dans le contentieux qui vous préoccupe. Donc voilà, cette possibilité, c'est quand même important de savoir qu'on peut choisir son avocat. Et d'ailleurs, ça fait la différence avec
parce que ce que tu dis, je pense que c'est important de le rappeler. C'est que les avocats qui sont à l'aide juridictionnelle sont spécialisés dans la matière. Souvent, les justiciables manifestent leur crainte d'avoir un mauvais avocat parce que c'est un avocat à l'aide juridictionnelle. Je pense qu'il faut vraiment casser ce préjugé parce que énormément d'avocats, beaucoup d'avocats qui ont beaucoup d'expérience sont également sur les listes de l'aide juridictionnelle et que tous ces avocats sont des avocats qui sont spécialisés. Ça fait aussi partie du métier d'avocat d'être à l'aide juridictionnelle. L'avocat est auxiliaire de justice et on se doit de représenter tout un chacun, même les personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat à des honoraires plus élevés. Je pense un point important. Deuxième chose que je voulais rajouter sur l'aide juridictionnelle, elle est tout le monde peut avoir accès à l'aide juridictionnelle, mais il faut quand même soit être citoyen français, soit avoir des papiers. C'est-à-dire que les sans-papiers, en principe, n'ont pas un droit à l'aide juridictionnelle, sauf pour contester les décisions de refus de titre de séjour. Voilà, c'était pour...
Et moi, j'avais une petite question, toujours concernant l'aide juridictionnelle. Est-ce qu'un avocat, du coup, qui accepte de prendre l'aide juridictionnelle, après peut demander des frais pour remplir des papiers, pour un complément de l'aide juridictionnelle ou des trucs comme ça.
Sauf aide juridictionnelle partielle, parce que il faut savoir aussi qu'il y a une convention d'honoraires qui est conclue entre l'avocat et le client pour qu'il soit bien informé justement à l'avance des honoraires qui seront dus, de la façon dont ces honoraires seront payés aussi, parce que faut pas hésiter aussi à discuter avec l'avocat si vous en êtes là de l'échelonnement du paiement des honoraires, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être mis dans la convention.
Pardon, et la convention, elle est homologuée par l'ordre des avocats. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une convention d'honoraires comme ça. Ça passe par une forme de contrôle, en tout cas au niveau professionnel.
Mais par contre, si c'est de l'aide juridictionnelle totale et c'est indiqué sur la décision qui a été rendue par le bureau d'aide juridictionnelle, à ce moment-là, il n'y a pas d'autres frais. Enfin, c'est-à-dire que l'avocat a accepté de travailler uniquement à ce prix-là et il ne peut pas demander d'honoraires complémentaires ou quoi que ce soit. Il peut éventuellement, dans le cas, mais je pense en procédure de droit du travail ou autre, demander un honoraire de résultat. C'est-à-dire que si la procédure marche bien et que éventuellement ça doit pouvoir être possible. Mais par contre, c'est pour tout autre type de procédure, c'est tout en pris en charge par l'État. Alors, c'est pas bien pris en charge par l'État, ça c'est un autre problème, mais à la rigueur c'est le problème de notre profession. Mais à partir du moment où l'avocat accepte de travailler à l'aide juridictionnelle, parce que sur des villes comme Lyon, il n'y a pas d'obligation pour ça, c'est-à-dire que quand on ne veut pas travailler à ces tarifs-là, parce que c'est ça aussi la réalité, il n'y a pas d'obligation, alors que je pense que dans des plus petites villes, pour le coup, il peut y avoir aussi une désignation d'office comme ça, mais c'est pas du tout le cas à Lyon, où pour le coup, les avocats qui font c'est un choix qu'ils font, et du coup, il faut qu'ils l'assument aussi jusqu'au bout. Donc, il n'est pas question de ça. Et par ailleurs, pour revenir sur ce que disait Madeleine, c'est que on a souvent l'idée aussi qu'un avocat qu'on ne paie pas a moins de travail sur le dossier, et de la même façon qu'un médecin qui accepte la CMU, enfin pour le coup il est un peu obligé, mais qui accepte la CMU va sanctionner la personne de la même façon. Enfin voilà, le dossier il est traité de la même façon que si c'est une personne qui paye et qui paye les honoraires habituels.
Je voulais simplement faire la petite différence entre l'aide juridictionnelle et l'avocat commis d'office, parce que c'est un peu dans le langage commun, on voit souvent les personnes confondre. Quand on parle d'avocat commis d'office, déjà c'est que au niveau pénal, c'est quand une personne est convoquée donc devant le tribunal correctionnel par exemple, et que elle n'a pas d'avocat et elle demande à ce qu'on lui commette d'office un avocat. Attention, avocat commis d'office, ça ne veut pas dire avocat gratuit. Donc après, il faut quand même remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. C'est important de le savoir avant, mais en principe d'ailleurs c'est noté sur la convocation qu'on reçoit.
Et par ailleurs, enfin, en dehors de l'aide juridictionnelle, il y a aussi une possibilité qui est assez méconnue. Enfin, bien souvent, on le sait pas, mais il y a des protections juridiques qui sont, enfin, quand vous avez des contrats d'assurance, et parfois même avec des contrats d'assurance habitation, ce qui est logiquement, un contrat dont on est facilement détenteur, il y a souvent des garanties de protection juridique qui sont comprises dedans, et parfois qui peuvent prendre en charge, notamment tout le conseil, donc les procédures tout ce qui est intervention avant éventuellement la saisine d'un juge, et parfois aussi dans les procédures juridictionnelles, donc devant un juge. Alors, rarement les procédures pénales, en tout cas moi de ce que j'en ai vu, je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière, mais par contre dans certains domaines et qui permettent de prendre au moins une partie en charge pour les frais d'avocat. Pour le coup, dans ces cas-là, les honoraires de l'avocat sont libres et donc il peut très bien demander un paiement supplémentaire, mais par contre il y a une partie de ces honoraires qui peuvent être pris en charge. Ça vaut le coup de regarder parce qu'il y a bien souvent des personnes qui se retrouvent du coup qui sont au-dessus des plafonds de la durée additionnelle. Donc, et l'air de rien, on sait que ça représente un coût certain et qui font pas jouer les contrats d'assurance, alors qu'il y a souvent des contrats dans lesquels ça peut fonctionner. Donc ça vaut la peine de se renseigner là-dessus suivant les litiges.
Et pour terminer, voilà, chaque émission, on vous présentera un mot. Un mot du lexique juridique. Un mot rigolo, enfin que nous en tout cas on a trouvé rigolo quand on l'a découvert. C'est vrai que souvent les juristes ont tendance à pouvoir utiliser des mots qui sont pas dans la langue courante, enfin en tout cas on a cette impression. Donc aujourd'hui le mot que nous avons choisi, c'est le mot synalagmatique.
Waouh.
Et qui en fait peuvent être utilisés tous les jours, tellement on fait de contrats synalagmatiques au quotidien. Alors synalagmatique, souvent, voilà, ça qualifie un contrat, une convention, par lesquelles deux personnes s'engagent réciproquement l'une envers l'autre. Alors je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, contrat de vente. Contrat de vente, il y a un acheteur, il y a un vendeur. L'acheteur s'oblige à verser une somme, le vendeur s'oblige à transférer la propriété de la chose. Quand vous allez déjeuner au restaurant, au snack, à la cafétéria, là aussi, vous formez un contrat synalagmatique, car vous vous engagez à payer ce que vous allez manger et le restaurateur s'engage à vous servir un repas. Voilà, donc c'est le petit mot du jour, synalagmatique.
Et voilà, et du coup, donc c'était notre première. Si vous avez d'autres questions, il y a 2 minutes encore. Mais on pourra revenir dessus parce que probablement que c'est des questions. On a probablement été très vite sur plein de choses. La prochaine émission, on avait envie de la faire sur la séparation parentale, avec l'idée de travailler sur cette question-là. Puis après, on aura, et la suivante, ce sera sur les expulsions locatives.
Vous avez en tête la date de la prochaine émission?
18 février, en principe.
On le rappellera au Canu Info de juste avant pour dire écoutez bien le Canu Info d'après. Eh ben, merci beaucoup. Désolé, il y a un tout petit souci technique qui fait que vous aviez sûrement l'impression sur 2 ou 3 micros que les gens étaient situés dans une église, mais c'est pas du tout le cas. Tout le monde était bien dans le studio, il y a un tout petit peu d'écho. On avait réussi à trouver d'où ça venait. Eh ben, il est 19h58, il reste 2 minutes, le temps à l'émission Idées Noires de s'installer, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Merci de nous avoir écoutés et merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Merci.
69-201 Lyon CEDEX 1. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet de Radio Canu, www.radiocanu.org. Merci à vous.